Salut à tous, bah voilà, c'est Scalpator des Garrigues. Ah, j'ai un ami, il a eu une super idée pour passer le jour de l'an. Et en fait, il s'est dit, tiens, je vais aller passer le jour de l'an à Tarnac. Et putain, moi j'ai trouvé que l'idée était vachement bien. Je crois que je vais y aller aussi. À bon entendeur, salut.
Bonjour. Bon, j'ai bientôt 73 ans. J'ai beaucoup vu et entendu, bien sûr. J'écoute France Inter. Et à propos de la Palestine, sans parler plus avant de ce qui se passe et surtout de ce qui va se passer, j'entends à longueur de jour les faits d'armes, les exploits de Tsahal. Tsahal, c'est du marketing et c'est trop grave en ce moment. Honnêtement, objectivement, les journalistes de votre antenne devraient dire, doivent dire, armée française, armée américaine, armée israélienne. Et pas cette propagande subliminale d'un lobby qui n'a pas plus de droit qu'un autre de pénétrer France Inter. France Inter qui appartient à tous et nous représente chacun. C'est déjà bien triste d'être au balcon, spectateur inerte, à l'abri, et de faire préparer les fêtes sans pouvoir ni protéger ni soulager personne. Les gosses, les gamins qui seront broyés sous les bombes demain ou qui vont sauter ou le pauvre soldat qui va se faire tuer. Il faut être objectif, s'il vous plaît, à France Inter.
Dominique de Caen, dans le Calvados, j'appelle pour appeler à un rassemblement demain, mardi 30 décembre à 17h30 devant la préfecture de Caen pour soutenir les Palestiniens et puis pour dire aux gens que ce qui se passe là-bas, c'est une catastrophe, c'est une honte, on n'a pas idée quoi. Alors demain, mardi 30 décembre, 17h30 devant la préfecture de Caen, il y aura l'association France-Palestine Solidarité, comité du Calvados, etc., etc. Et puis il y aura tous les gens qui voudront bien venir. Venez, 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 en attendant d'aider autrement les Palestiniens. Allez, salut à tous.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Je vous appelle de Corse et je suis en train d'écouter l'émission sur Abraham, je ne sais pas comment, et je déplore qu'on ait invité ce monsieur qui est pro-domo israélien d'une manière très très profonde, tout en étant soi-disant avec du recul, comme a dit Daniel Mermet. Et j'aimerais qu'on invite pour faire le pendant Shlomo Sand, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment le peuple juif fut inventé ». Shlomo Sand. Ça serait intéressant de l'inviter et de le faire parler, parce que je pense que son opinion est radicalement différente du monsieur qui est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.
Ah ben ça tombe très bien, voilà un vœu qui va être réalisé, chère AMG, auditrice modeste et géniale. Nous avions prévu d'ailleurs de rediffuser aujourd'hui l'entretien avec Shlomo Sand, qui date du 17 septembre 2008, autour de son livre « Comment le peuple juif fut inventé ». Comment le peuple juif fut inventé. C'est un livre qui a eu un retentissement formidable en Israël lors de sa publication et en France, qui a fait un certain bruit, mais pas tant qu'on aurait pu le penser. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un travail d'historien, puisque Shlomo Sand est historien, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tel Aviv, il compte en Israël parmi les intellectuels importants et relativement turbulents, ce qui est le rôle évidemment des intellectuels, au moins de ceux que nous aimons à la base, si j'y suis, et là il s'interroge sur l'identité et sur l'histoire des Juifs. Et il fait des découvertes extraordinaires. Alors il dit, j'ai pas fait de découvertes, simplement j'ai réuni un certain nombre de connaissances, de découvertes des historiens, et je les ai assemblées en un certain ordre, ce qui constitue ce livre, et ça conduit à une chose qu'on sait déjà, c'est que l'identité, c'est une affaire de mythe. C'est une affaire de mythe et de mythologie. Il n'y a aucune certitude, et certainement pas de certitude génétique, bien évidemment, à notre identité. Il n'y a que de l'histoire, et donc que des mythes, tant l'histoire est une science qui est exposée à l'interprétation, et notamment aux nécessités du présent. Nous interprétons l'histoire, nous regardons l'histoire à travers les nécessités du présent. Et c'est ce que nous rappelle Shlomo Sand. C'est un livre formidable que je vous conseille vraiment ardemment, parce que c'est pas seulement autour de l'identité juive, c'est autour de l'identité, ça a pour thème l'identité au fond tout court, et l'identité de chacun. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Une idée amusante pour les fêtes. Se réunir en nombre, entre amis, et pique-niquer, malgré le temps maussade, sur les pistes des aérodromes de France et de Navarre, occuper ces pistes afin d'empêcher d'atterrir, par exemple, tout vol en provenance du Brésil. Parce qu'enfin, qui a besoin de touristes de retour de ce beau pays? Pas grand monde. Allez, c'était donc Colomba du 14e arrondissement. Salut.
Oui, bonjour, c'est Khaled Ansi. Je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir qui a raison, qui a tort en Israël, en Palestine. Et tout ce que je constate, c'est qu'on est en train de bombarder du haut d'avions. Ça, c'est terrible. T'entends les avions arriver, et puis boum, tu vois la bombe tomber près de chez toi. Donc on est en train de bombarder les Palestiniens qu'on a préalablement enfermés derrière des murs de 8 mètres à certains endroits. C'est terrible. Donc cet après-midi à Annecy, en Haute-Savoie, on organise une marche à l'appel de l'association France-Palestine, entre autres. Une marche qui partira donc à 17h de la préfecture d'Annecy en Haute-Savoie. On espère que vous serez nombreux. Si vous travaillez, ben, quittez votre travail, prenez une heure ou deux. Enfin, faites quelque chose, quoi, mais bougez-vous un petit peu. Hein. Sortez un peu de chez vous. Bougez-vous. Bougez-vous. Parce que c'est plus possible. On ne peut pas tout laisser faire, tout accepter, et puis ne rien dire. Parce que d'habitude, pour ces manifs, on n'est pas très très nombreux. Ce serait bien que vous soyez là. Soyez là. Hein. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. Et bon courage.
Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs. Donc je voulais vous livrer une information que je n'ai trouvée que dans le Canard enchaîné. Figurez-vous que sous le haut patronage de l'Élysée et la houlette d'Emmanuel Mignon, longtemps d'IRCAB de Sarko et Cato de Choc, notre ministre des Affaires étrangères Kouchner a signé le 18 décembre avec Monseigneur Manberti, secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les États, c'est-à-dire son homologue en somme, un accord de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur catholique. Jusqu'à présent, les facultés catho ne pouvaient obtenir le titre d'université à part entière, ni surtout les financements publics. Seul l'État avait le droit de délivrer des diplômes, et c'est comme ça depuis 1870. Mais tout cela va changer. Telle une bulle papale, l'affaire n'a pas eu les honneurs du Parlement. Un simple texte réglementaire a suffi, sur lequel Valérie Pécresse, accessoirement ministre de l'Enseignement supérieur, n'a pas eu voix au chapitre. Et voilà, encore un petit coup d'épaule à droite, et puis un grand coup de pied dans la laïcité. Voilà, on continue. Bonne émission.
Le loup doit demeurer avec l'agneau. Le petit enfant doit les conduire par la main. Refrain d'une chanson yiddish. C'est Jocelyne à Bayonne.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, avec Shlomo Sand. Comment le peuple juif fut inventé.
Flight number 2, arriving from New York.
Shlomo Sand, je suis très content de vous rencontrer parce que on a l'impression un peu en France de, que notre espace intellectuel, médiatique se réduit, que la contestation se réduit à un conflit entre les bonnets blancs et les blancs bonnets. Et là, on a un livre sous les yeux, « Comment le peuple juif fut inventé », qui tout d'un coup élargit cet espace qui est en train de se réduire et qui amène de l'audace, de la contestation. Et c'est, ça me semble, nécessaire. Alors évidemment, on va parler du titre, mais d'abord, on va parler un peu de vous. Vous êtes historien, vous êtes israélien, vous nous connaissez bien, vous avez vécu en France, je crois, vous avez fait...
Oui, j'ai terminé mes études de doctorat à l'école des hautes études, en sciences sociales, à Paris.
Oui.
Et voilà, j'ai certains côtés un peu français.
Et alors, vous commencez un livre avec un titre pareil, « Comment le peuple juif fut inventé », et vous parlez de vous. Vous dites, je suis, oui, voilà qui je suis là, à travers une succession de portraits, de personnages comme ça. On voilà un autre, on voilà un autre, et tout ça, ça s'emboîte pour dire un peu d'où vous venez.
Et oui, c'est-à-dire j'essaie de ne pas parler directement sur moi parce que ça peut être ennuyeux, mais je parle sur le monde qui m'a entouré, c'est-à-dire dans ma propre biographie, et aussi j'essaie de donner raison à le discours après, historique qui va venir après. C'est-à-dire j'essaie d'écrire de où je parle. Et c'était important pour moi expliquer, c'est-à-dire découvrir les cartes avant d'entrer en vif des sujets, dire voilà, je parle de cette place-là. Je suis d'origine juive, je suis israélien, et mes parents sont venus de l'Europe, et voilà, j'ai raconté, quand j'ai grandi, j'ai raconté, comme on dit, les autochtones, c'est-à-dire les Arabes, et après j'ai raconté aussi des juifs français. Tout ça, j'essaie, avec des petites anecdotes, d'écrire dans la préface des livres. Oui.
Alors, le livre est sorti il y a quelques mois déjà en Israël.
Oui.
Et c'est un best-seller, c'est un succès.
Oui, c'est une surprise.
Oui. Ça vous surprend ?
Oui, beaucoup, parce que j'imagine que j'ai beaucoup de fautes dans le livre, parce que c'est le sujet tellement large, mais les plus grandes fautes que j'ai commises en début, que j'ai dit que je crois qu'il y aura très peu de gens qui vont le lire. Parce que le sujet est tellement controversé, pas facile, mettre cette question, comment on a fait inventer les peuples juifs. Donc j'ai pensé qu'en Israël, la réaction sera complètement négative, il y aura très peu de lire, et voilà, 19 semaines, un best-seller en Israël, vraiment une surprise. Ça montre une chose, peut-être nous sommes aussi, comme la France, une société coincée, mais avec un peu plus de curiosité peut-être.
Oui, oui, il y a beaucoup d'ouverture, on peut discuter en Israël.
C'est-à-dire, vous savez, si quelqu'un lit les livres, je dis qu'Israël n'est pas vraiment un pays démocratique dans le sens classique des termes, mais c'est un pays pluraliste et libéral dans le sens que la vie intellectuelle et culturelle reste toujours assez vivace, curieuse, et voilà, le livre a trouvé sa place.
Alors vous posez une question à travers le titre « Comment le peuple juif fut inventé », mais après tout, c'est une question qui peut être posée à n'importe quel peuple.
Exactement.
Par exemple, au hasard, le peuple français.
Voilà, je crois aussi qu'il y a 500 ans, le peuple français n'a pas existé.
C'est ça.
Et à la fin du 19e siècle, comme la vie, ça a commencé à écrire tout ça, les manuels, et en créant un peuple français imaginaire qui commence avec Clovis... C'est aussi une invention. Donc, c'est, à propos des peuples juifs, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'on a inventé les peuples français vers l'arrière, on a inventé les peuples italiens jusqu'à l'Empire romain, on a inventé les peuples allemands jusqu'à les Teutons, on dit Teutons.
Oui. Les Teutons,
oui. Voilà,
oui, oui.
Donc je crois aussi qu'on a inventé les peuples juifs.
Quelle est la nécessité de cette invention ? Parce qu'il faut ça permet la construction et la cohésion de...
Oui, c'est-à-dire, pour créer des nations modernes, à certains moments, les classes politiques et intellectuelles ont eu besoin, parallèlement à cette création de la culture immédiate, unifiée, il fallait créer un imaginaire vers l'arrière pour renforcer l'identité moderne de l'État national. Et voilà, donc les mouvements nationaux ou l'État national ont créé un imaginaire vers l'arrière en disant nous sommes ici 1000 ans, 2000 ans avec le judaïsme moderne. C'est-à-dire avec le recul de la religion juive et le début de la naissance des mouvements nationaux et sionistes, plus en plus, on a commencé à construire, à mon avis, une histoire et une historiographie imaginaire d'un peuple juif qui était créé à l'époque biblique et à certains moments était exilé, a commencé à errer, est arrivé à Moscou, a fait un demi-tour, retourné en Palestine. Voilà.
Oui.
Donc j'ai essayé de montrer et pas après pas, comment s'était construit cet imaginaire historique.
C'est une déconstruction, votre bouquin est une déconstruction.
Oui, une déconstruction sur une construction qui était faite à la deuxième moitié du 19e siècle. Mais dès maintenant, je voudrais souligner, je ne dis pas que le judaïsme n'a pas existé. Je ne dis pas que la religion juive n'a pas existé. Je pense que la nation, l'idée des peuples races, aux peuples d'une même origine juive, c'est une invention, une pure invention de deuxième partie du 19e siècle.
Au contraire, vous dites que la religion juive, le judaïsme, a été particulièrement tenace et vivace.
Vous savez,
au cours de l'histoire.
J'essaie dans le livre de montrer que le judaïsme était le premier monothéisme prosélytique. Mmh. Et grâce à cet prosélytisme, il est devenu une religion très importante dans le monde occidental et à mon avis à la base de tout le monothéisme qui va venir après. Mais cette religion, c'est aussi une religion prosélytique. Il voulait être prosélytique et grâce à cet prosélytisme, il y a eu tellement de juifs dans le monde.
I'm a Jew for thugs, a Jew for hugs, a Jew for lobster, a Jew for bugs.
I'm a Jew for masturbation, 5 week vacation, a Jew for NPR, Salon, and the Nation.
Pass on Reagan, give me Donald Fagan, manish the name Menachem Begin.
I'm a Jew for death tax, a Jew for Kovacs.
Oh, it got to you.
A Jew for Xanax.
I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malachus and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malachus and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees.
I'm a Jew for mixed genes, a Jew for mixed drinks, a Jew for Mafongo, Mahachman, Nixting.
A Jew for gypsies, a Jew for Juju, a Jew for Tutsis, a Jew for Hutus.
A Jew for gays, a Jew for boys,
a Jew for girls, a Jew for boys,
a Jew for Goras, a Jew for Flacas, a Jew for Lidbacks, Rusas, Polacas.
I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malachus and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees. I'm a Jew for Allah, a Jew for Jesus, a Jew for Malachus and telekinesis, a Jew for you, a Jew for me, a Jew for birds and a Jew for the bees.
Voilà, on continue avec Shlomo Sand pour son livre « Comment le peuple juif fut inventé » qui vient de sortir chez Fayard. Je rappelle que Shlomo Sand est professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv. Alors, on va essayer d'avancer pas à pas dans votre travail. Vous remettez en cause l'histoire du peuple juif telle qu'elle existe en Israël, par exemple, et telle qu'elle est enseignée aussi en Israël. Vous êtes toujours en guerre contre l'enseignement dans votre pays, et puis telle qu'elle existe aussi dans nos esprits à nous. C'est-à-dire moi je suis sûr que depuis longtemps, pas depuis toujours, mais depuis longtemps que voilà, les Juifs ont été chassés de leur terre et qu'ils ont erré, le Juif errant, et puis qu'ils sont montés à travers la Russie et puis jusqu'en Pologne, en Allemagne, en France, etc. D'une part, et d'autre part, ils sont passés par l'Afrique du Nord, le Maghreb, jusqu'à l'Espagne, en refluant, etc.
Toujours en voyage.
On a les Ashkénazes, on a les Séfarades, et puis se trouvent certains qui étaient... Je ne sais plus très bien pourquoi, parce que je ne connais pas cette histoire par cœur, mais enfin, les uns en Irak, les autres dans le Yémen, les autres en Afrique, etc. Mais en tous les cas, c'est un peuple chassé, exilé, dispersé.
En diaspora.
En diaspora.
Voilà.
Et qui, tout légitimement, à un moment de son histoire, au 19e siècle, éprouve le besoin de revenir sur sa terre originelle. Et puis, voilà, qui existe aujourd'hui à travers l'État d'Israël. Et vous nous dites, tout ça n'est pas tout à fait vrai.
Ouais. Et je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, premièrement, vous savez, une simple question. Tout le monde croit que le peuple juif était exilé à 70 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire, Titus, l'empereur romain, a détruit le temple et a exilé le peuple juif. C'est la base de tout le savoir sur le judaïsme à travers l'histoire. Et voilà, je me souviens arriver à ce chapitre demandait, est-ce qu'on a exilé les Juifs au début de notre ère? Et soudain, je commençais à chercher des livres de recherche. Je n'ai pas trouvé un livre de recherche sur les actes d'exil des peuples juifs. Vous pouvez imaginer, l'acte fondateur de l'existence juive dans l'histoire n'est pas un sujet de recherche. C'est incroyable. Un livre, ni en français, ni en anglais, ni en hébreu, qui parle sur les façons qu'on a exilé les peuples juifs. Je m'en lançais dedans et j'étais surprise. Vous savez, on peut dire, voilà, c'est le Shoah number one pour les juifs, c'est-à-dire cet acte d'exil. Mais cet acte d'exil n'a pas eu lieu. En cherchant, j'ai découvert que ce mythe chrétien du XIIIe siècle, qui a commencé à développer des idées que les juifs étaient exilés de leur terre de Palestine ou de Judée, c'est un mythe chrétien de Justinus, des martyrs d'ailleurs, qui a commencé l'idée que les juifs étaient punis par Dieu à cause de leurs rapports avec les messies, etc. Et à certains moments, les judaïsme talmudiste adopte cette notion d'exil et ça commence à être une façon d'être dans l'histoire, dans le monde exilé. Mais les Juifs n'étaient pas exilés. Les Romains n'ont pas exilé des peuples à cette côté de la Méditerranée, de tout.
Et pourtant, ça fait partie des choses qui semblent certaines.
Oui, mais c'est-à-dire, moi-même, il y a 4-5 ans, je crus toujours que les peuples juifs étaient exilés, mais les Romains n'ont pas eu des moyens de transport d'exiler un peuple entier. Cette légende qui était adoptée était ancrée dans l'histoire. Et à l'époque moderne, c'était justement la justification des retours des Juifs en terre de Palestine. Maintenant, l'exil n'a pas eu lieu. Même pas une émigration massive des Juifs hors de Palestine. Même pas ça. Donc il y a deux questions qui ont un rapport. De où viennent les Juifs et qu'est-ce que sont devenus les habitants de Palestine, s'ils n'étaient pas exilés. Et voilà une autre surprise. Je fuis comme ça dans les livres des premiers sionistes, comme Ben-Gurion, comme Ben-Tzvi. Ben-Tzvi, c'était le deuxième président de l'État d'Israël. Ben-Gurion était le chef d'État. Jusqu'en 1929, dans leurs écrits, les vrais héritiers des anciens juifs de l'époque antique, c'est les Palestiniens. J'essaie de montrer, il y a des références, si quelqu'un ne me croit pas, qu'il ouvre le livre. Ben-Gurion écrit, dans les années 20 de ce 20e siècle, que les vrais descendants des anciens juifs, c'est des Palestiniens. En arrivant en Palestine, ils ont croyé que les paysans arabes, ils sont vraiment ceux qui ont resté de l'époque ancienne. D'ailleurs, bon, je ne sais pas sûr que c'est exact ou non, mais une chose est évidente. S'il n'y avait pas d'exil des Juifs, qu'est-ce que sont devenus les habitants des anciens Judées? Bon, à certaines époques, ils se christianisent avec le christianisme, et c'est presque sûr que les 7e siècle, la plupart d'entre eux prennent l'islam, avec l'arrivée des Arabes des déserts. Et je crois que la plupart des populations juives anciennes s'islamisent et restent dans le pays. Bien sûr, mélanger avec chaque concurrent. Mais, si vous voulez savoir les paradoxes dans l'histoire, et je répète, après Ben-Gurion, après Ben-Tzvi, après Borokhov, c'est un autre grand théoricien du sionisme, les paysans de cette terre sont les vrais héritiers de l'ancien judaïsme. Vous pouvez imaginer dire ça en Israël en 2008, dire que probablement... D'ailleurs, je suis sûr que les Hamasniks, c'est-à-dire les gens de Hamas, probablement ne vont pas l'aimer aussi. Cette idée qui est probablement...
Bah, ils sont d'origine juive, oui, ça ne va pas leur plaire.
Voilà, c'est fait un peu un désarroi. Bon, de toute façon, les Juifs n'étaient pas exilés. Et j'ai pu prouver ça dans le sens que, bon, il y avait des migrations. De où viennent les Juifs? S'ils ne sont pas des véritables des anciens Judais. Voilà, dans les livres, je suis les... étapes de la diffusion des judaïsmes autour de Méditerranée. Et je découvre, premièrement, après les écrits des classiques romains, etc., et après aussi les vestiges de Talmud, etc., que le judaïsme était une religion prosélytique. Et à l'époque des Maccabéens, le prosélytisme était fait par la force. C'est-à-dire, cet royaume qui a eu l'épée a converti par force toutes les voisins. Donc le judaïsme commence comme religion, si vous voulez savoir, à partir des Maccabéens, comme religion prosélytique qui impose la foi juive à tous les voisins autour des Judées. Et après, ça devient, comment dire, les choses, avant que le christianisme développe, c'est le judaïsme à la mode. C'est-à-dire, les écrivains romains ont peur du judaïsme, c'est-à-dire les conversions au monothéisme juif. C'est très populaire autour de la Méditerranée. Et je crois, plus en plus, en écrivant ce livre, que la plupart des juifs se sont convertis. Bon, et en plus de ça, de cette conversion du monde antique, il y avait aussi des royaumes que j'ai découverts. Vous savez, il y a 10 ans, je ne savais pas qu'à les régions que le Yémen se trouve aujourd'hui, il y avait un royaume juif, et 150 ans, 140 ans, un royaume juif très, très fort, qui s'appelle Khémia.
Khémia, oui.
Khémia, voilà. Et vous savez, les juifs yéménites, ce n'est pas les brises de la mer Rouge qui a fait qu'ils ont des cheveux tellement jolis. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens de la région. Les juifs yéménites sont des descendants de ce royaume juif très fort qui s'est judaïsé au 5e siècle de notre ère.
Qui s'est converti au judaïsme à un moment.
Oui, un royaume entier.
Oui, oui, oui.
Bon. Et bon, nous savons aussi au nord d'Afrique, le judaïsme chez les berbères, qui était populaire à cette époque, phéniciens et après berbères. Et tout le monde au nord d'Afrique connaît l'histoire de Caïna.
Oui, tout à fait, la reine juive, Caïna.
Et la résistance juive en face d'invasion musulmane.
Mais bien sûr. Et donc, c'est-à-dire que ces berbères se convertissent au judaïsme pour résister à la poussée arabe oui. qui pousse.
C'est-à-dire qu'ils prennent le judaïsme avant que l'islam arrive. Et après.
Comme moyen de se défendre.
Oui.
Pour avoir une cohésion.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle a fait un royaume à certaine époque. Et une grande partie des juifs nord-africains, c'est d'origine berbère et arabe. Et si quelqu'un n'accuse pas que je suis ashkénaze, et donc j'accuse de tout le monde d'être converti, et je crois aussi que les ashkénazes, les choses qu'on appelle ashkénazes, sont des gens convertis. C'est-à-dire quoi?
Mais sinon, on va avoir les séfarades sur le dos. Alors.
Oui, exactement. Donc, je dis ouvertement, ce n'est pas seulement les séfarades, c'est aussi l'ashkénaze. D'ailleurs, les séfarades ne sont pas séfarades, les ashkénazes ne sont pas ashkénazes, parce que les juifs qu'on appelle séfarades sont la plupart des Nord d'Afrique, pas des séfarades, et les juifs qu'on appelle ashkénazes, comme moi-même, ne sont pas des ashkénazes. Ashkénazes, c'est l'allemand. Et les juifs de l'Europe de l'Est, que les juifs allemands, autrefois, on l'appelle Ostjuden, les juifs de l'Est, et sont, à mon avis, c'est-à-dire cette présence massive démographique des juifs ashkénazes, des juifs de l'Europe de l'Est, vient des conversions massives à l'époque des 8e, 9e siècle. Nous connaissons déjà aujourd'hui plus en plus sur les royaumes des Khazars. Nous savons que beaucoup de Khazars et beaucoup de Slaves s'est converti au judaïsme. C'est-à-dire qu'il y avait un royaume, un 9e siècle, juif, entre les mers Caspiens et les mers Rouges, que la frontière était beaucoup plus grande que Judée, beaucoup plus grande que l'époque biblique, un grand royaume qui se judaïsait au 9e siècle, la plupart d'ailleurs, et qui ont résisté au moins 200 ans. Et je crois que les plus...
Poussaient des quoi, des Mongols?
Et les Mongols le poussaient après, plus en plus, vers l'Europe de l'Est. Et cet événement peut expliquer pourquoi, au début du 20e siècle, il y avait tellement de millions de Juifs à l'Europe de l'Est. De où ils sont venus? Ce n'est pas possible qu'ils sont venus d'Allemagne. Donc, à mon avis, les présents Juifs, en arrivant à la modernité, les présents Juifs, contrairement à toutes les imaginaires que nous avons comme peuple race qui a erré pendant 2000 ans, je crois que cette vivacité de cette religion, avec cette force, ce désir de convertir, qui a fait qu'il y avait tellement de Juifs à l'Est et à l'Ouest. Et les parts de ces Juifs qui ont quitté les Palestines autrefois est minime. C'est-à-dire, à mon avis, Hitler a eu tort. Hitler a eu tort en pensant que les Juifs sont une race.
Oui, on peut,
il s'est trompé complètement. Il s'est trompé complètement. Et malheureusement, il y a encore des Juifs en Israël et en France et ailleurs, qui pensent toujours que les Juifs, c'est une race, une peuple race, avec une origine. Et vous savez, Malheureusement, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent aujourd'hui, pas des sans-juifs, parce que c'est idiot, mais des jeunes juifs. Jeunes, on dit en français jeunes. ADN.
ADN.
Oui. ADN. ADN.
Les gènes. Les gènes.
Gènes. Pardon.
Le gène juif.
Oui, ouais. Il y a des laboratoires qui cherchent les gènes juifs. Et ça, c'est, à mon avis, très triste pour prouver une identité commune. Yam de dum bum 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 maridum maridum maidum
zilam ay 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 skibim bum 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 bim bum bum. Shlomo Sand, les auditeurs écoutent et se disent, mais attends, c'est incroyable, comment est-ce que soudain arrive ce chercheur israélien, sympathique comme tout, qui nous apprend tout ça? Est-ce qu'il y a des antécédents? Vous n'allez pas nous faire croire, vous êtes le premier à mettre le doigt sur toutes ces histoires-là. Il y a des précédents, il y a des chercheurs qui vous ont précédé, que vous suivez, enfin, vous n'êtes pas le premier à découvrir tout ça.
Pas seulement ça, je vais aller plus loin. Pas à cause de modestie, mais à cause de recherche d'honnêteté. Mmh. Je ne dévoile pas rien de tout nouveau dans les livres. Je prends un certain savoir, je l'organise différemment. Vous savez que parfois, bon, je suis allé spécialiste d'Antiquité, spécialiste de l'Europe de l'Est, poser des questions, etc. Rien de nouveau dans mon livre. Une chose je faisais. J'organisais différemment le savoir. Et à propos de la question, est-ce qu'il y avait des précédents? Oui, nous savons qu'un homme comme Arthur Koestler, par exemple, qui était un écrivain.
Arthur Koestler,
bon,
oui.
Qui a tombé sur l'histoire de Khazar par hasard. Mm-hmm. Lui, qui était autrefois un sioniste, a tombé sur ça. C'était d'origine juive hongroise, il s'est intéressé à ses origines. Et il a publié ce livre qui vient d'être, je crois, retraduit en français, le 13e tribu. Et voilà, donc je n'ai pas dévoilé rien du tout de nouveau. J'ai organisé différemment le savoir. Et parfois, vous savez, vous changez le rapport entre des tailles et les images est complètement différent. Mmh. Donc, oui, il y avait beaucoup de chercheurs avant moi. Et en plus, je crois que l'historiographie sioniste, il y a 60 ans, a eu moins peur de dire, voilà, notre origine est khazar, notre origine est slave, notre origine est berbère. Avant 67, l'historiographie sioniste craignait moins pour la justification de l'existence, de notre existence au Proche-Orient. Mmh. Donc, ils étaient beaucoup plus généreux en face de ces matériaux qui montrent que le judaïsme était une religion prosélytiste et la plupart des juifs, leur origine était différente que la plupart des gens pensent aujourd'hui. Donc, franchement, rien de nouveau dans les livres à une chose. Le savoir est organisé différemment. J'essaie de faire de façon la plus rationnelle, mais cette savoir organisé différemment fait un éclat. Mmh. C'est-à-dire, les gens sont mal à l'aise avec ça.
Vous évoquez l'archéologie aussi, qui vient corroborer vos découvertes.
Oui, c'est-à-dire l'archéologie israélienne, surtout à partir des années 80-90. D'ailleurs, je m'occupe de ça dans le premier chapitre. D'ailleurs, c'est le point de départ. Moi, je me souviens être à l'université, écouter il y a 15 ans, une conférence de la part d'un archéologue qui me dit que la sortie d'Égypte jamais n'a pas eu lieu. Mais l'archéologie, dans l'année 90, commence à dévoiler et contredire la plupart des choses dans la Bible. C'est-à-dire, la Bible, qui est une grande, grande œuvre théologique, est devenue, au deuxième moitié du XIXe siècle, un livre d'histoire. Moi, j'ai essayé de contribuer, rendre les livres sans gloire théologique et réduire ses côtés pseudo-historiques.
Sa valeur historique, oui.
Je crois que la Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un grand livre littéraire, un grand livre poétique, un grand livre théologique,
Au, au passage, vous dites un truc sur la Bible, c'est que c'est passé de main en main, d'auteur en auteur, au fil du temps,
oui.
Et qui ont repris des...
Ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque qui a été écrite par tellement des auteurs différents, avec des goûts différents, avec ceux qui les côtés universalistes les plaisaient beaucoup, à ceux qui, justement, l'ethnocentrisme, la fermeture sur soi-même. Donc, la Bible n'est pas un livre, c'est une bibliothèque, une riche bibliothèque. Il faut prendre les livres des rayons de histoire et rendre ça dans le rayon théologique.
Oui. Mais sur le rayon histoire, finalement, ce que vous nous apprenez, c'est que en fait, sur l'histoire des Juifs, on a l'histoire racontée par Flavius Joseph, à un moment, dont parle par ailleurs Pierre Vidal-Naquet. Bon.
Ouais.
Et puis, il faut attendre quasiment le XVIIIe siècle pour qu'on, à nouveau, qu'on se penche sur l'histoire des Juifs. Pourquoi ce trou? Pourquoi si long? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéressait pas à l'histoire de ce peuple?
C'est ça tout que, en arrivant chaque fois en France, ça m'amuse qu'on parle juif, peuple des mémoires, etc. Non, les Juifs n'ont pas écrit leur histoire, n'ont pas aimé leur mémoire. Il y avait les mémoires bibliques, oui. Mais vous savez qu'à partir de Joseph, jusqu'à la modernité, c'est-à-dire jusqu'à le 19e siècle, les Juifs n'ont pas écrit leur propre histoire. Il n'y a pas de livre d'histoire, presque pas. Bon, je vais être prudent. Il y a ici et là des petites choses, vraiment des petites choses marginales. Mais les Juifs n'ont pas eu de mémoire. C'est-à-dire, ils n'ont pas raconté leur propre malheur. De tout, hein. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a des chroniques d'église, et puis dans les Moyen-Âge, cette masse des chroniques que l'église nous a laissées, nous n'avons pas ça de la part des rabbinats. Pourquoi?
Alors?
À mon avis, parce que le temps pour les rabbins n'était pas un temps historique. C'est-à-dire, il n'y avait pas hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, il n'y a pas cette sens historique. En lisant la Bible, ils n'ont pas lu leur passé, mais l'air présent et l'air futur. C'est-à-dire, toutes les concepts, les notions de temps étaient différents. Pour vous dire, un juif au Moyen-Âge savait qu'il peut sortir dans la rue et raconter Eliyahu. Eliyahu, c'est une des prophètes. C'est-à-dire, il n'y avait pas ici et ailleurs. Vous comprenez, les notions de temps étaient différentes, donc il n'y avait pas une nécessité d'écrire une chronique historique. Un fait, les juifs n'ont pas une mémoire, sauf les mémoires théologiques, très importante, qui peut-être est les bases de leur identité, cette mémoire biblique, mais il n'y a pas une notion de durée historique,
de temps historique.
Qui sont dedans. Jusqu'à le 19e siècle, avec le réveil des historiographies, il y a eu aussi, surtout en Allemagne, des historiens juifs, et les premiers historiens juifs, qui commencent à écrire l'histoire juive. Je parle sur Jos, Zuns et des autres. Ils ne pensent pas qu'ils sont en train d'écrire une histoire d'un peuple, mais une histoire d'une civilisation religieuse. C'est-à-dire, eux, ils se considèrent comme allemands, c'est-à-dire, ils voulaient bâtir une grande république allemande, je parle sur les premières moitiés du 19e siècle. Donc, les premières écritures de l'histoire juive n'est pas une histoire d'une nation, d'une race ou d'un peuple, c'est une histoire des communautés religieuses qui sont dispersées, que leur origine est différente. Donc, à certaines façons, si vous voulez savoir, pas seulement que je n'ai rien découvert, mais je suis allé en arrière et dévoilé les premiers grands historiens juifs, et je crois que je suis une héritière de ces historiens-là.
Yanko kvete vesai daisy, eh? Wenn Kostan in Join YMCA, soon bacon and pork he began to enjoy. Took off his yarmulke, yid was a guy. I said, hey, Yankel, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax and the members of Adasago.
Bye, 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 bye,
bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. He couldn't believe that he and Jesus were both Jews. He said, how can we be the same? Bendis long hairs, got a Mexican name. I said, hey, Hirsch, take a walk on the kosher side. I said, hey, kid, take a walk down Fairfax. Yeah, start there. Yeah, give me a forward there, will you? Go in the corner there. Get me a Danish here. I'm sick. I can't walk up there by myself. Give me a cup of coffee. Will Katz was taking his bar mitzvah lesson. Cross the street, a shiksha was undressing. And one day, to the rabbi's surprise, Katz was shown the way he was circumcised. I said, hey, Katzie, take a walk on the kosher side. I said, hey, Nudnik, take a walk down Fairfax and the members of Fantastico. It's a very short, I'll grill a thing like that for you. Know what's going to happen? Your mother finds out about a thing like that. You'll make a hot. Let me out of here, Eddie. I got to go get a sandwich or something. I can't take this anymore.
Ensuite, avec le développement du sionisme, on aura toute une série d'historiens sionistes ou qui baignent dans l'idéologie sioniste et qui iront chercher dans l'histoire les justifications, évidemment, du sionisme.
Une chose, c'est-à-dire les justifications qui sont nations, comme la France, comme l'Allemagne. D'ailleurs, c'est calqué sur les notions, à mon avis, des nations allemandes, malheureusement, des peuples allemands, des folks allemands. C'est-à-dire l'historiographie sioniste, deuxième moitié du 19e siècle, j'essaie de montrer ça, et essaye de façonner l'histoire juive après le modèle des historiens allemands plutôt, et malheureusement, folkistes. C'est-à-dire, bon, pas tous les historiens allemands sont des... On commence à arriver vers les derniers chapitres, c'est-à-dire il y a un côté critique, pas seulement que l'histoire était un peu légendaire, mais aussi l'essence des identités modernes, des juifs modernes. Donc, les modèles de ces historiens sionistes ou pré-sionistes et les modèles allemands, pas républicains français, pas britanniques, mais plutôt une notion que les peuples modernes existent parce qu'ils existaient déjà au début des temps. C'est-à-dire, pour les Allemands, un vrai Allemand était si quelqu'un est descendu des Teutons, des Aryens, etc. Voilà, de ces historiens, Graetz et ceux qui les suivent, Heinrich Graetz, le premier grand historien national, nationaliste, si vous voulez. Bon, les modèles est une ethnos, j'appelle ça ethnos, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois biologique un peu, c'est-à-dire il y a une origine commune. D'ailleurs, en France aussi, au XIXe siècle, on sait qu'il y avait une discussion, est-ce qu'on est des Gaulois ou des Francs? Vous savez, bon, il y avait à certains moments, on a croyé que tous les Français sont descendants des Gaulois. C'était très populaire, hein? Nous sommes des Gaulois. Hein? Jusqu'à le XXe siècle, des lycéens, on lisait, nos ancêtres, les Gaulois.
Nos ancêtres, les Gaulois.
Voilà. Oui. Je crois que, moins ou moins, des Français croient que leurs ancêtres sont les Gaulois. Malheureusement, beaucoup de Juifs et beaucoup d'Israéliens croient que leurs ancêtres étaient les Hébreux. Bon, mon livre essaie de montrer que, exactement, que les Gaulois n'est pas des vrais ancêtres des Français d'aujourd'hui. Les Hébreux, les anciens Juifs ou Juifiens ne sont pas leurs vrais ancêtres. Sauf que, la deuxième moitié du 19e siècle, exactement comme en France, les historiens essayent de façonner une image d'un peuple fermé, descendant d'un certain peuple antique et qui continuait à errer dans l'histoire. Et voilà, c'est ça que je commence à critiquer plus en plus les notions de bâtir une nation juive moderne sur les bases, j'appelle ça ethnobiologique ou ethno-religieux, qui plus en plus prend des critères des nations de l'Europe de l'Est, de Centre-Europe et pas l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous allez définir la nation française, vous n'allez pas appuyer sur des notions biologiques. C'est-à-dire, quelqu'un est français, s'il a les cultures françaises...
Il y a quand même une leçon de l'histoire du XXe siècle qui fait qu'on a plutôt tendance, on espère en tout cas, à repousser ces notions-là.
Oui, c'est-à-dire, c'est une notion, si vous voulez, d'origine biologique commune. Si vous voulez savoir, le plus grand malheur du XXe siècle vient en partie de cette notion que nous sommes d'origine commune, biologique. Et je parle ici, justement, des choses qui se développent en Allemagne et ailleurs aussi, avec cette notion que nous avons, c'est-à-dire nous sommes venus de quelque part et nous sommes on marche vers quelque idéal, si vous le fermez. Le sionisme, l'historiographie sioniste, est basé sur la notion, j'appelle ça dans le livre, ethnocentriste. Si vous n'êtes pas des parents juifs, vous n'êtes pas juif. Vous ne pouvez pas devenir juif, sauf si vous convertis religieusement. Mais si vous n'êtes pas religieux, donc vous ne pouvez pas entrer dans le peuple juif, vous ne pouvez pas sortir du peuple juif. C'est quelque chose ethnocentriste, et c'est la base de la définition d'État d'Israël. Et si vous voulez, on peut arriver déjà à cette bottom line de mon livre, qui dit que cette historiographie qui était forgée autour de l'ancien d'un peuple juif fermé, ethnocentrique, est la base, si vous voulez, des lois, d'esprit des lois en Israël pour définir qui est citoyen, qui, à qui l'État d'Israël appartient. Et si vous voulez, mon livre, qui est un livre en histoire, une déconstruction d'un discours historiographique, d'un récit historiographique, parallèlement, le dernier chapitre, j'espère que je ne sors pas trop loin, mais le dernier chapitre, j'ai décidé de ne pas rester seulement un historien. Comme au début du livre, je raconte certains côtés personnels qui ont des rapports avec l'histoire et les malheurs de l'histoire. À la fin du livre, je laisse le territoire des, comment dire, typique des historiens, et je entre dans une certaine analyse socio- et politique de l'existence d'État d'Israël. Et une chose, je fais ça. C'était très important pour moi, pour les Israéliens et aussi pour les Français, d'origine juive et de non-origine juive, pour dire qu'il y a un paradoxe avec l'existence de ma propre État en Israël. Quel paradoxe ! Nous savons tous que la démocratie moderne est basée sur le principe que l'État appartient à ses citoyens. C'est-à-dire à partir de la modernité politique, nous savons que l'État moderne, État national, appartient à la nation, c'est-à-dire à la communauté des citoyens. Nous savons que chacun qui est défini comme français, l'État de la France, lui appartient. Vous ne pouvez pas dire que la France appartient seulement aux catholiques, vous êtes d'accord ? Et exactement comme l'Espagne n'appartient pas seulement aux Castiliens. Mais nous savons très bien, on n'a pas eu besoin, le président nous rappelle, que les bases peut-être de la culture française est catholique. D'accord ? Les points de départ. Mais personne ne va pas définir la culture française sur le catholicisme. Et il ne va pas dire qu'un citoyen qui n'est pas catholique, qui est protestant ou juif, la France l'appartient un peu moins. J'ai vu toute ma vie dans un État qui dit qu'il n'est pas d'État de ses citoyens, mais c'est l'État du peuple juif. Bon, à 48, comme l'État était battu, c'était normal, après le Shoah, après cette douleur profonde, chercher une place et dire, voilà, l'État d'Israël, c'est un État juif. D'accord, 48. Nous sommes à 2008. Et voilà, cet État continue à se définir, pas comme État démocratique de ses propres citoyens, c'est-à-dire, vous devez savoir qu'il y a 25% des citoyens israéliens qui ne sont pas définis comme juifs. 20% arabes, 5% des immigrants qui viennent de l'Europe de l'Est, qui par hasard étaient mariés avec des juifs, mais ils ne sont pas considérés dans le cadre d'identité comme juifs. Voilà. Si l'État est un juif, ou appartient au peuple juif, il y a des lois propres qui disent que cet État est un État juif et appartient au peuple juif. Donc, ça n'appartient pas à un collègue qui travaille au même étage à l'Université Tel Aviv, qui sont d'origine et arabe, palestinien. Bon, il y a un paradoxe.
Ah oui.
Et paradoxe dangereux pour l'existence de cet État. Parce que, en fin de compte, toute cette livre, toute cette démarche historique, ce n'est pas nier l'existence de l'État d'Israël. Sauf que, je pose une question. Est-ce qu'un État qui s'est défini comme il appartient à une population en majorité qui vit hors d'État, qui ne veut pas vivre dans cet État, parce que nous savons qu'il n'y a pas une place dans le monde qu'un Juif ne peut pas émigrer vers Israël. Bon, mais les Juifs, en général, préfèrent vivre sur des autres souverainetés, pas une souveraineté juive. C'est leur goût, d'accord ? C'est leur droit. Mais je n'arrive pas à comprendre comment je peux continuer dans un État qui dit que cet État, excusez-moi, appartient plutôt à Finkielkraut, qui a un collègue qui travaille avec moi au même étage, l'Université Tel Aviv, qui est un arabe. Peut-être Finkielkraut ne veut pas que cet État sera à lui, mais après les lois, l'esprit des lois israéliennes, cet État lui appartient. Vous savez, comme je suis historien, je sais très bien que les malheurs du XXe siècle sont une chose qu'il faut rester dans la mémoire. Donc je crois que si l'État d'Israël insiste de rester un état de refuge pour des juifs qui sont persécutés, je crois que c'est logique, d'accord ? Bon, c'est un peu exceptionnel, mais pour des juifs persécutés à cause de leur origine ou leur foi, je peux, comme démocrate et libéral, je peux accepter ça. Mais qu'un État ne dit pas ça. Il dit que cet État appartient automatiquement aux juifs du monde. Je me demande, mes étudiants palestino-israéliens, je parle sur les Arabes citoyens d'Israël, mes étudiants qui parlent hébreu comme moi, parfois mieux aujourd'hui, c'est une troisième génération, combien de temps ils vont accepter vivre un État qui sont nés, qui sont partie de la culture, mais c'est défini comme un État des autres. À mon avis, c'est une des choses qui va détruire cet État. À fin de compte, cet livre doit être une contribution pour l'existence d'Israël, à la longue. C'est-à-dire, je suis pour un compromis, je suis pour le moment pour deux États qui vont être confédérés. Peut-être un jour, on va vivre ensemble avec tous les Arabes en Palestine. Mais en principe, je suis pour le partage, pour le moment, pour une coexistence dans une confédération. Je crois que cet livre, en principe, doit contribuer à cette, comment dire, force d'Israël d'exister. Parce qu'un État qui nie les droits d'un quart de sa population va créer demain une révolte, pas à Jénine, pas à Nablus, mais en Galilée. Mes étudiants aujourd'hui vont se révolter, comme au Kosovo. Vous comprenez? C'est-à-dire, si un État dit que ce n'est pas leur propre État, donc ils vont créer un État au Galilée, qui sera un État de ses citoyens. Ils vont être dans leur pleine droite. Maintenant, mon livre essaie d'éclairer ça et demander, exiger de mes autorités, des classes politiques israéliennes, d'être conscience. Et je demande aussi des Juifs du monde, s'ils veulent aider Israël, qu'ils nous aident de devenir le plus vite possible une république de ses citoyens. Donc, je crains un peu qu'il y aura les gens qui vont m'attaquer. C'est normal, d'ailleurs, tant que c'est légitime cette attaque, tant que ce n'est pas physique, tant que c'est intellectuel, allez-y. C'est juste de bagarrer autour des idées comme ça qui touchent, à mon avis, pas seulement à la politique immédiate, pas seulement à la position morale, mais à notre propre histoire et qui a un rapport direct avec l'avenir. Donc, s'il y aura des bagarres...
Vous êtes là.
Je suis là, je vais revenir pour continuer à bagarrer.
Merci beaucoup, je t'envoie ça.
C'était une nouvelle diffusion de l'entretien avec Shlomo Sand en septembre 2008 à l'occasion de la sortie en français de son livre « Comment le peuple juif fut inventé » aux éditions Fayard. Mais toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Lidouine Caron, réalisation Coy Nguyen et Raphaël Mitterde, assistante Charlotte Perry, chef du répondeur Agnès Lebot. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Oh, je le répète, 01 56 40 37 37.